Les dames de 7 ans numéro 60. Les jumeaux numéro 8. La semence troisième partie. Le 7 août 2022. Brian Kozurek. Pasteur. Pour notre texte de ce matin, je vais lire Matthieu 25 de la version du roi Jacques. Mais là où il y a des symboles, je vais lire à la place ce que le symbole représente. De cette façon, nous aurons une compréhension plus claire de ce que dit cette parabole concernant les jumeaux, les vierges sages et les vierges folles. Il y a deux types d'épouses, une vraie épouse et une fausse épouse. Matthieu 25.1 Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur Bible, allèrent à la rencontre de l'époux. De 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. 3 les folles, en prenant leur lampe, leur Bible psaume 119105 ta parole Esther une lampe. Néhémie prière point d'huile avec elle, mais n'avait pas le Saint-Esprit pour éclairer la parole. 4 mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile, le Saint-Esprit, dans des vases. Et on nous dit qu'elle est à notre vase dans 1 Thessaloniciens 4.4 Esther, que chacun de vous sache posséder son corps, vase, dans la sainteté, sanctification, et l'honnêteté, l'honneur. 5 comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Cette période de sommeil pendant les 7 âges de l'Église, 6 au milieu de la nuit, à la fin du 7e âge de l'Église, on cria, voici l'époux. Allez, venez, à sa rencontre. C'est alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes, commencèrent à scruter leur Bible. 8 les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, le signe que vous avez dans vos vases, le Saint-Esprit, car notre Saint-Esprit est reparti et nos Bibles sont opaques, quant à ce qui se passe. 9 les sages répondirent, non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt, à l'entrepôt, chez ceux qui vendent la claire révélation de ce que dit votre Bible, qui doit s'accomplir en 7 heures. Et achetez-en pour vous, comme nous l'avons fait. 10 pendant qu'elles allaient en acheter, à l'entrepôt, l'époux fit savoir qu'il était déjà là. L'épouse qui s'était préparée entra avec lui au mariage. Et la porte, la parole, fut fermée. Jésus nous dit qu'il est à la porte dans Jean 10.7, 10.9 et dans Colossiens 4.3 et l'apôtre Paul parle de la porte du logo, qui est à la parole. 11 plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12 000 et répondit, je vous le dis en vérité, je vous connaissais comme ma femme, mais je n'ai aimé vous connaît plus comme ma femme. 13 veillez donc, puisque vous n'avez aimé savez ni le jour, ni l'heure où vient le Fils de l'homme. Maintenant, nous venons de lire une histoire très merveilleuse pour la vraie épouse, mais une histoire très triste pour les vierges folles, parce que le temps était écoulé pour elles. Et c'est le tableau que Jésus nous dépeint qu'il y aura à la fin des temps. L'époux vient et fait connaître sa parousie à présence et la Vierge sage saisit la révélation, mais pas la Vierge folle. Et nous savons que l'époux est Christ, la parole, qui est Dieu lui-même, Christ, et il est la parole et il est descendu avec le cri de minuit, qui est le cri de 1 Thessaloniciens 4.13-18. Il fait connaître sa présence, parousia, à tout ce qu'il est ici, ce qui est déclaré par le 7e ange messager, et à ceux qui s'étaient préparés, de recevoir la parole de la promesse qui est la parousia, de Pierre 3.14 pourquoi tout demeure comme dès le commencement, où est la promesse de sa parousia, mais comme les vierges sages, qui sont la véritable épouse de Christ, étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont donc compris les choses de Dieu, 1 Corinthiens 2, et s'estèrent ainsi qu'ils ont, entendu, reconnu et agi sur le cri de minuit, qui estère le cri de 1 T. 4.13-18, et comme qu'ils ont reconnu qui estère descendu, Ils sont entrés avec Christ la parole, qui estère les pouonos. Mais l'autre, la vierge folle, qui manquait de l'Esprit Saint, et Néhémie pouvait donc pas comprendre les choses de Dieu, comme l'apôtre Paul l'avait averti dans 1 Corinthiens 2.14 où il disait, 9 mais, comme il estère écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'émis son point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Ni Dieu nous les a révélées et dévoilées par son esprit. Car l'esprit de Dieu, sont tout, même les choses profondes de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est citer l'esprit de l'homme qui estère en lui. De même, personne n'est aimé connaît les choses de Dieu, si ce n'est citer l'esprit de Dieu. 12 Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, en comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. 14 Mais l'homme animal naturel, l'homme non régénéré, l'homme dépourvu de l'Esprit de Dieu Néhémie reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et Néhémie peut les connaître, parce qu'elles n'émis sont discernées que par la personne remplie de l'Esprit. 15 Mais celui qui estère rempli de l'Esprit juge toutes choses, mais il n'estère lui-même jugé par personne. Par conséquent, ce matin, nous examinerons les citations de notre prophète, qui parle de la même chose que nous venons de lire, afin que nous puissions mieux comprendre ce qui se passe entre la Vierge sage et la Vierge folle en cette heure. Et les sages et les folles sont ceux qui prétendent avoir entendu le cri, qui estère le cri de minuit. Et bien sûr, nous savons que le cri, c'est estère le message. Dans son sermon au 82 le sceau de Dieu 16 février 61, frère Branham dit, ces membres d'église qui ont levé la main, Père, je te remercie pour eux. Ils ont professé et sont entrés dans une église, mais ils se rendent compte qu'en étant juste des membres d'église, ils seraient cochés dans la mauvaise catégorie de femmes. Nous verrons cela demain soir, si tu le veux. Père, montre-leur comment ils sont cochés dans la fausse épouse. La vraie épouse a de l'huile dans sa lampe. Je prie Père, pour que tu leur donnes de l'huile dans leur lampe ce soir. Que ces membres d'église soient remplis du Saint-Esprit ce soir. Accorde-le, Seigneur. Par conséquent, si la vraie épouse a de l'huile dans sa lampe qui estère le Saint-Esprit, dans sa lampe de la parole de Dieu, alors ceux qui n'aiment sont pas la vraie épouse, bien qu'ils prétendent l'être, n'ont pas d'huile, ils n'ont pas de Saint-Esprit et sont donc une fausse épouse, parce qu'ils prétendent être l'épouse alors qu'ils n'aiment le sont pas. Et dans son sermon E64 le signe de la semence du temps de la fin 19 mars 62 frère Branham dit qu'il y a un réveil en cours. Qu'est-ce ? Annoncement. Son saint vous n'entendez plus tellement parler de Billy Graham. N'est-ce pas? Et qu'en est-ce il d'oral et des autres? Vous savez que le grand feu du réveil Néhémie brûle plus. Qu'est-ce ? C'est Esther le signe de la semence du temps de la fin. Les paroles, remarquez qu'il utilise ici la parole au pluriel. Les paroles ont été semées. Deux types de paroles, deux types de semences, ont été semées. Qu'est-ce ? La dénomination moissonnera la dénomination. Cela fait qu'elles se confédèrent ensemble. Mais la parole de Dieu a aussi été semée. Et quand l'Esprit de Dieu commencera à tomber, la parole de Dieu vivra dans les gens. Et cette fausse épouse qui a commis adultère là-bas, qui s'estère plongée dans les credos et qui a vendu son droit d'aînesse, que va-t-elle moissonner? Une confédération d'églises, qui doit être liée et brûlée comme les épinélés, chardons. Mais là où la parole de Dieu a été semée dans les cœurs des gens, il moissonnera une épouse pour Christ aussi sûr que je me tiens ici. Les signes du temps de la fin. Rappelez-vous que l'apôtre Pierre nous montre aussi qu'il y a deux types de semences et donc deux types de paroles semées. 1 Pierre 1.22-23 22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. 23 Puisque vous avez été régénérés, vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et demeure pour toujours. Par conséquent, si la parole de Dieu est la semence incorruptible, qui apporte la vie éternelle, laquelle n'est émise peut jamais périr, qui vit et demeure pour toujours, alors la semence corruptible est aussi une parole. Mais cette parole n'est émise peut pas engendrer la vie éternelle, mais elle engendrera plutôt une vie qui périt. Dans Romains 3.4, l'apôtre Paul a dit, que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. En d'autres termes, que Dieu, qui estère la parole, soit vrai, et que tout homme, lui et sa parole soient menteurs. Alors voilà, la Vierge sage avait la parole de vie, et la Vierge folle suivait les paroles des hommes. Frère Branham, dans son sermon 131-5, 98 le 1er saut 18 mars 63 dit, maintenant, souvenez-vous, la vraie épouse. Or, il y a une fausse épouse. On la trouve dans Apocalypse 17. Elle a dit, je suis veuve, et je n'ai besoin de rien. Vous voyez, assise sur cette bête vêtue d'écarlate, et ainsi de suite, la bête, plutôt, sent bon, mais la vraie épouse serait formée de milliers de gens, mais ce seront les élus de chaque âge de l'Église. Chaque fois qu'un message a été proclamé, et que les gens l'ont cru et accepté dans toute sa lumière, à ce moment-là, ils ont été scellés et mis à part jusqu'à ce jour de la rédemption. Jésus n'a-t-il pas dit la même chose, quand il a dit le son a retenti à la septième veille? Ça, c'est le dernier âge de l'Église. Voyez? Et il a dit, voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors, voilà la Vierge endormie qui arrive, elle se frotte les yeux, et elle dit, je pense qu'il me faudra avoir de cette huile, moi aussi. Alors, il vaudrait peut-être mieux en avoir. Et la vraie, la véritable épouse, qui était là, a dit, nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Oui. Nous en avons juste assez pour en avoir en nous-mêmes. Nous, Néhémie, pouvons rien vous donner. Si vous en voulez, allez prier. 80-3 Christ Esther le mystère 28 juillet 63 remarqué. Qu'est-ce que la dénomination essaie de faire? De s'exalter comme Lucifer. Ainsi, il s'appelle l'Église, l'Épouse, ce qu'ils sont selon Apocalypse 17. Comme nous en avons parlé, la fausse épouse. Au-dessus du petit troupeau de Christ, l'Épouse, Lucifer pense s'élever au-dessus de l'humble parole de la vérité de Dieu par la connaissance de la révélation et à placer par l'instruction de séminaires et de théologie, au point qu'ils se sont exaltés et si vous n'appartenez pas à leur groupe, alors vous êtes un paria. 213 La puissance de transformation 31 octobre 65 matin et voici le pape, la tête de la femme, le faux antéchrist pour les fausses épouses scientifiques. Lequel? Notre monde oriental américain ici, ou plutôt le monde occidental, a conduit le monde dans la science. Il vient elle dans son église scientifique, et maintenant tous les protestants s'inclinent devant lui, vous voyez? 13. Vous le voyez? Tout est 13. toute notre nation, tout le reste Esther 13. Un mot de femme. Vous voyez? Nous y voilà. Nous l'avons compris. Cela s'Esther transformé en un monde de femmes dans le jardin d'Éden, mais ce sera le monde de Dieu un jour. Je suis désolé de devoir dire cela, mais la fausse église épouse Esther l'église qui croit à la soi-disant science colportée par les États-Unis. C'est Esther exactement ce qu'il a dit. Ils ont donc pris la pilule empoisonnée pour ainsi dire et ont mangé de l'arbre interdit comme Ève. La vraie épouse Esther est une épouse de la parole qui prend Dieu au mot, « Je suis le Dieu qui guérit toutes tes maladies. » Frère Branham décrit la fausse épouse. L'épouse fondée sur la science. Dans le sermon suivant. Remarquez ce que Frère Branham dit dans son sermon « Accepter la voie pourvue par Dieu » 15 janvier 63 p. 78 ici. Il parle de l'Église scientifique d'Amérique. Eh bien, si les fléaux tombent, nous irons sous terre dans une grotte et fermerons la porte. Cela ne m'y fera aucun bien. Nous resterons dans la maison, et mettrons un masque sur notre visage. Et mettrons un peu de désinfectant dessus. Ça ne fait aucun bien. Dieu a fait une voie pourvue. Oui. Et c'était quoi? Le sang. Dieu a prévu, aussi simple que cela puisse paraître, de prendre le sang d'un agneau et d'en asperger la porte. Cependant, Dieu a dit que c'était sa voie, et il l'a honoré. Tout ce qui n'espère pas sous le sang meurt, tout premier-né. L'Éden de Satan, 29 août 65 p. 49 maintenant, nous découvrons que lorsque chaque semence se reproduisait selon son espèce, il n'y avait pas de mort dans cet Éden. Il n'y aura pas de mort dans le nouvel Éden. Vous voyez? Il n'y avait rien d'autre que la sainteté, la pureté et la vie éternelle. Maintenant, l'incrédulité dans toute la parole de Dieu a produit la semence de l'impiété dans l'Éden de Satan. Nous arrivons maintenant au point où Satan occupe le trône en tant qu'antéchrist dans un Éden de cette terre. Un Éden de péché, de religion pervertie. Il n'a pas commencé en disant, « Je suis Satan. Je suis le grand ange. » Non, pas comme ça, mais en pervertissant la parole de Dieu. Et c'est Esther ainsi qu'il a introduit son royaume dans chaque âge. Et maintenant, en ce grand âge trompeur, il est Esther prêt à occuper son trône, grâce son peuple. Il s'Esther bâtit un Éden intellectuel, instruit et scientifique. Exact. Des prédicateurs scientifiques, une église scientifique, une théologie scientifique, tout Esther scientifique. Tout repose sur la connaissance. Toute l'église Esther bâtit sur la connaissance. Elle n'Esther pas bâtie sur la foi. Maintenant, écoutez, j'ai fait des recherches sur toutes les dénominations et tous les principaux conducteurs dénominationnels dans le monde, y compris les musulmans, les hindous, les mormons et les juifs, et ils ont tous la même doctrine quand il s'agit de prendre ce que l'OMS veut que vous preniez. Ils disent tous que vous l'apprendrez si vous êtes chrétien. Si vous n'aimez le prenez pas, vous détestez votre frère. Quelle pomposité de prêcher une théologie basée sur la science. Quelle arrogance de revendiquer le contrôle de votre conscience pour le bien de la science et d'en faire un principe religieux de leur foi. Les paroles de frère Branham ici dans l'Éden de Satan n'auraient pas pu être plus claires que ce dont nous avons été témoins ces dernières années. Et ce n'est pas encore fini, mes frères et sœurs. C'est Esther le véhicule qui a réuni toutes les dénominations. Vous pensez qu'une Néhémie vont pas exploiter ça pour tout ce que ça vaut? Le pape a dit que vous avez l'obligation morale de l'apprendre. Le rabbin Isaac Joseph a déclaré que c'était obligatoire selon la loi juive. L'archevêque orthodoxe russe, la plus haute position de l'église orthodoxe russe, a déclaré que vous deviez la prendre pour être chrétien. En fait, ils ont défroqué un moine qui refusait de le faire. La convention baptiste du Sud dit que vous devez la prendre pour être chrétien. Les mormons, les musulmans et les rabbins juifs disent que vous devez la prendre. Cette est devenue la doctrine centrale qui a uni tout le monde des religions. Du Dalai Lama à Franklin Graham, ils ont tous exhorté le peuple à la prendre. Donc, l'Église d'aujourd'hui n'est-elle pas basée sur la parole de Dieu? Elle est-elle basée sur la soi-disant science? Dans son sermon Le Dieu de cet âge mauvais 1er août 65 mètres 78 frère Branham dit, voyez maintenant qui est-elle le conducteur de cet âge moderne? Religieux et mauvais? C'est Esther le diable qui prend cet arbre du bien et du mal acquis et le place là-bas, remarquez. Amenons sa belle épouse d'église au conseil œcuménique pour un mariage, c'est Esther 1. Sa belle église scientifique avec tous les diplômes qu'on peut obtenir, les doctorats, de l'église de Christ, les docteurs, des baptistes, presbytériens, pentecôtistes, et tous, les amenant tout avec leurs parures décorées et leurs grandes églises, tout au concile écuménique, nous sommes un. Sa Néhémie leur sera jamais pardonnée. Une dénomination. Porter la marque d'une dénomination Esther la marque de la bête. Nous avons déjà vu ici ce que c'est Esther de faire ça. Fuyez cela. Les enfants. Fuyez cela. Voyez. La grande et belle église au mariage écuménique, portant sa marque, des shorts, bien sûr, des robes mondaines, sexy, du maquillage, de très bons disciples du diable pour attraper les fils de Dieu, pour épouser un bon garçon mûr dans une vieille histoire éprouvée comme ça. Esther juste. Le choix d'une épouse 29 avril 65 soir P, 57 maintenant, remarquez, ce n'était pas des pommes. Nous le savons. L'église Esther est devenue en ces jours, avec ses réalisations, comme toutes les autres réalisations de l'homme, elle devient scientifique. Ils essaient de faire une église scientifique par l'attraction d'images et de grands clochers. Et c'est très dommage que le pentecôtiste soit entré dans cette ornière. Vous feriez mieux de vous tenir avec un tambourin au coin de la rue et avec l'Esprit de Dieu autour de vous. Mais vous essayez de vous comparer avec le reste, parce que vous vous êtes donné le nom d'une dénomination. C'est Esther ça qui l'a fait. Voyez? Les églises essaient d'être scientifiques. Et rappelez-vous, alors que l'homme réalise des progrès par la science, il se tue tous les jours. Quand il a inventé la poudre à canon, regardez ce qu'elle a fait. Quand il a inventé l'automobile, elle tue plus que la poudre à canon. Maintenant, il s'est procuré une bombe à hydrogène. Vous vous demandez ce qu'il va faire avec ça? C'est vrai. La puissance de transformation 31 octobre 65 mètres 1 p, 90 et voici le pape. La tête de la femme, le faux, l'antéchrist pour les fausses épouses scientifiques. Lequel? Notre monde occidental américain, a conduit le monde dans la science. Il vient elle dans son église scientifique, et maintenant tous les protestants s'inclinent devant lui, vous voyez? 13. Vous le voyez? Tout Esther 13. Toute notre nation. Tout le reste Esther 13. Un monde de femmes. Vous voyez? Nous y voilà. Nous l'avons compris. Cela s'est transformé en un monde de femmes dans le jardin d'Éden. Mais ce sera le monde de Dieu un jour. E22 Joseph rencontre ses frères 30 décembre 56 maintenant. Dans la Genèse. Genèse signifie le commencement, le chapitre de la semence. Et rappelez-vous que tout ce qui est aujourd'hui en fait commencer dans la Genèse. C'était le commencement de toute chose. C'était le commencement du salut. C'était le commencement du péché. C'était le commencement de toutes les sectes. C'était le commencement de la vraie Église. C'était le commencement de la fausse Église. C'était le commencement de la justice. C'était le commencement de la séduction. C'était le commencement de tout a commencé dans la Genèse. J'aimerais que nous ayons environ 3 mois là-dessus, pour rester sur ce sujet et pour simplement le creuser, le relier par le Saint-Esprit par les cordes de Dieu. Et de simplement l'envelopper ensemble et de regarder comment chaque mot s'imbrique parfaitement avec les autres, c'est-à-dire une si belle chose. Remarquez donc qu'il appelle la Genèse le chapitre de la semence et c'est-à-dire ce que nous étudions aujourd'hui. Ce sont les deux types de semences des deux arbres. L'arbre de vie avec la parole de Dieu, qui est-à-dire la semence de Dieu. Et puis l'arbre de la connaissance et de la science. L'arbre de Satan. 5 Apocalypse au chapitre 1 4 décembre 60 matin maintenant. Nous sommes désolés que notre église Néhémie soit pas plus grande. Un jour, nous espérons en avoir une plus grande. Et ces 4 derniers jours, en particulier, en étudiant sur la partie historique du livre de l'Apocalypse, j'ai rencontré des choses que je n'aurais jamais pensé être vraiment arrivées. Et cela m'a même inspiré le sentiment que, après ces 7 âges de l'Église, une fois que j'ai fini cela, j'aimerais avoir une autre série de ce genre afin d'apporter la vraie Église et la fausse Église ensemble et juste à travers l'histoire et les Écritures. Comme une fois, j'ai essayé d'apporter un sermon sur la vraie vigne et la fausse vigne telle qu'on les trouve dans la Bible. Vous voyez donc que la vraie vigne et la fausse vigne s'entrelacent tout au long de l'Écriture. Nous pourrions prendre une semaine sur cela en comparant non seulement la vraie semence de Dieu et la fausse semence du serpent, mais nous pourrions aussi passer beaucoup de temps à entrer dans les vraies croyances de la vraie Église et les comparer aux fausses croyances de la fausse Église. Parce qu'après tout, dans Genèse 1.11, il a dit que chaque semence se reproduirait selon son espèce ou sa nature. Donc tout est-ce là si seulement nous ouvrions les yeux sur les caractéristiques déterminantes de chaque semence. Mais le problème est-ce qu'il y a certaines caractéristiques qui sont partagées, telles que les deux adorent Dieu et les deux offrent des sacrifices à Dieu, les deux paient leur dîme à Dieu et les deux sont religieux, les deux chantent à Dieu, etc. Et c'est-à-dire ce qui aveugle l'esprit des gens, qui voient certaines choses sur lesquelles ils sont tous les deux d'accord et puis, pour s'entendre, ils se permettent d'ignorer les différences, et c'est-à-dire là que la séduction entre en jeu, et c'est-à-dire c'est la doctrine du Balaam. Par conséquent, nous voyons la doctrine de Balaam en contraste avec la doctrine de Christ. Les élus s'en tiennent à la doctrine de Christ où Christ seul est le centre d'attention, tandis que la doctrine de Balaam, c'est tout est bon pour l'unité, et donc leur attention est sur l'Église et non sur le Dieu de l'Église. Dans son sermon 30, les 10 Vierges 11 décembre 60 matin, frère Branham dit, maintenant, peut-être, si le Seigneur le permet, bientôt j'aurai une autre petite série de réunions sur la vraie et la fausse Église, depuis la Genèse, prendre cela à travers la Bible et balayer cela jusqu'à l'Apocalypse, les deux Églises, juste ce qu'elles vont faire. Maintenant, nous avons parlé de la différence entre la Vierge sage et la Vierge folle, la vraie vigne et la fausse vigne plus tôt dans ce sermon et avons montré comment la vraie vierge s'est préparée par la parole pour l'enlèvement et a été purifiée dans la parole. Nous savons aussi qu'il n'y a absolument rien que vous puissiez accomplir en termes de justice qui équivaudra à quoi que ce soit avec Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 64.5, nous lisons, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Maintenant, tout signifie tout, et donc rien de ce que nous faisons n'est mis peut mériter, quoi que ce soit avec Dieu. Pas même notre choix comme les baptistes voudraient vous le faire croire. Jésus lui-même a dit dans Jean 15.16 « Ce n'est-ce pas vous qui m'avez choisi ? Mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Ce n'est-ce donc même pas notre choix, mais son choix qui mérite quoi que ce soit avec Dieu. Car Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Même avant que nous ayons eu la moindre chance de faire le bien ou le mal acquis. Éphésiens 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 5 Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, l'adoption des enfants, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 6 À la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et la semaine dernière, nous avons vu comment nous sommes purifiés et préparés pour l'enlèvement, et cela vient par la parole de Dieu et cela seul. David a dit dans Psaume 119.9 « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? » En se dirigeant d'après ta parole. Et aussi les paroles de l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5.26 « Afin qu'il la sanctifie et la purifie par le lavage de l'eau, par la parole, et bien sûr, ce que Jésus dit lui-même dans Jean 15.3 « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Vous voyez, bien que nous puissions faire les mêmes actes de justice que notre prochain, ce n'est pas ce qui nous rend juste devant Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Galates 2.16 « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi de Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi de Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul cher ennemi sera justifié par les œuvres de la loi. » Et encore dans Galates 3.11. Il dit, « Et que nul ennemi soit justifié devant Dieu par la loi, cela est vide, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Et puis il a dit dans Romains 3.28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Et encore dans Romains 5.1 « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comme nous l'avons mentionné, la justice, righteousness, en anglais, note du trad, vient du vieux mot anglais righteousness. Et être juste signifie que vous êtes correctement sage, et cela signifie, comme l'apôtre Paul l'a dit, cela doit venir par la foi. Et la foi est quelque chose qui nous a été révélé, comme nous l'avons appris grâce à l'enseignement de William Branham. Par conséquent, la foi est une révélation. C'est quelque chose qui vous a été révélé. Et puisque c'est quelque chose qui vous a été révélé, alors ce n'est pas vous qui l'avez découvert comme si vous aviez fait une grande percée par vous-même, mais c'est un don de Dieu. C'est pourquoi, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens 2.8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela n'est mis vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Dans Romains 3.27, nous lisons, « Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. » Par quelle loi ? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Maintenant, ce sur quoi je voudrais me concentrer ce soir dans ce paragraphe de frère Branham, c'est l'endroit où il dit, « Seigneur, dans ta présence divine maintenant, alors que nous savons que tu es ici, purifie nos âmes, nos cœurs de tout mal acquis, de toutes les mauvaises pensées, de toutes les mauvaises communications, de toutes les choses qui sont fausses, purifie-nous. Maintenant, remarquez qu'il demande à Dieu de nous purifier de tout mal acquis dans nos cœurs et nos pensées. Maintenant, cela peut être juste les pensées pécheresses ordinaires de la race humaine, mais cela peut aller beaucoup plus loin que cela. Et c'est ce que nous voulons examiner ce soir. Qu'est-ce ce qui est vraiment appelé le mal acquis par Dieu? Commençons par aller dans 2 Jean 1.8. Prenez garde à vous-même, afin que vous n'ayez perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9. Quiconque va au-delà des limites et n'ayez demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a à la fois le Père et le Fils. Nous voyons donc ici que le véritable test au temps de la fin sera de savoir si nous restons dans la doctrine de Christ ou si nous en sortons et sommes tentés par la doctrine du Balaam. 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, n'aimez le recevez pas dans votre maison, et n'aimez lui dites pas, salut. 11. Car celui qui lui dit, salut, participe à ses mauvaises œuvres. Maintenant, c'est toute une déclaration de l'apôtre Jean parce que c'est un langage très dur concernant la doctrine de Christ et notre comportement envers ceux qui n'aimez la croient pas. Et Jean dit que si vous dites salut à ceux qui n'ont pas cette doctrine, vous participez à leurs mauvaises œuvres. Alors, quelles sont ces mauvaises œuvres dont Jean parle ici? Et pourquoi est-il si dur dans son langage envers ceux qui s'opposent à la doctrine de Christ? Le mot que Jean a utilisé ici pour mauvaise a été traduit du mot grec ponero maintenant. Ce mot ponero parle de mal acquis, en effet ou en influence, et diffère des autres mots grecs, pour le mal acquis qui ont à voir avec le caractère essentiel, ainsi que les mots qui parlent de dégénérescence. Ce mot ponero est également utilisé pour désigner le diable lui-même, et donc son influence sur les autres. Donc, ce que Jean dit, c'est que ceux qui n'ont pas la doctrine de Christ enseignent contrairement à la doctrine de Christ, et si vous les aidez de quelque manière que ce soit, vous aidez de manière intrinsèque le diable lui-même. Sester pourquoi frère Velester si prudent de Néhémie pas aidé par des fonceux qui enseignent mal acquis au sujet de la divinité, qui estère la doctrine de Christ. Pourquoi? Parce que, financer l'hérésie ou celui qui la prêche, Sester aidé à sa propagation. Maintenant, jetons un coup d'œil plus approfondi à ce mot ponero tel que Jean l'a utilisé dans 1 Jean 3.12. Remarquez ici qu'il dit, et n'ayez pas ressemblé à Caïn, qui était du malin. Et ce mot pour du malin, c'est encore le mot grec ponero. Et il parle de la personne du diable lui-même, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Remarquez que les œuvres de Caïn sont aussi dites être ponero, ce qui signifie que s'il était de ce ponero, du malin, alors l'influence de ce ponero malin a également affecté son sacrifice à Dieu, et a donc rendu ce sacrifice lui-même mauvais. Mais remarquez qu'Esther dit que le sacrifice d'Abel était juste, tête faisant un clin d'œil, et que celle de son frère était juste. Maintenant, nous savons que ce mot juste, raiteu, signifie correctement sage. Nous voyons donc que l'offrande d'Abel était basée sur la révélation qui estère la foi, et s'estère quelque chose qui vient de Dieu seul. Ainsi, par cette révélation, il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Le sacrifice de Caïn n'était pas un mauvais sacrifice. En fait, Caïn avait un sacrifice biblique, comme nous le voyons dans Deutéronome 26. Car c'était une offrande des prémices, des premiers fruits, qui était une offrande de récolte, qui représentait le temps de l'enlèvement. Mais elle était mauvaise parce que c'était hors saison. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission du péché. Hébreux 9. Dans le livre de Jude, Nous sommes avertis qu'au temps de la fin, il y aura ceux qui s'éloigneront de la foi et qui iront dans la voie de Caïn. Caïn a été le premier sur terre à s'éloigner de la présence du Seigneur, et ceux qui s'éloigneront de la présence du Seigneur seront religieux tout comme Caïn et ils offriront un grand sacrifice à Dieu comme Caïn. Mais leur sacrifice serait considéré comme mauvais tout comme celui de Caïn. Remarquez en outre que Jude décrit ces hommes non seulement comme suivant la voie de Caïn, mais remarquez aussi que Jude nous avertit que ces hommes suivront également l'erreur de Balaam et qu'ils le feront pour de l'argent, tout comme Balaam. Jude 1.11 Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont avidement jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Remarquez qu'ils courent avidement. En d'autres termes, ce sont des hommes avides. Et ils courent après l'erreur de Balaam à cause de leur cupidité. Alors, quelle a été l'erreur de Balaam pour lequel les hommes vont courir après à cause de leur cupidité? L'erreur de Balaam estère la doctrine de Balaam, qui estère un message d'unité. Rassemblez tout le monde car après tout, Néhémie sommes-nous pas tous pareils? Apocalypse 2.14 Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est-à-dire que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité, fornication. Il a dit que ce que j'ai contre toi, c'est-à-dire que tu as au milieu de toi ceux qui s'attachent à la doctrine de Balaam. L'unité pour l'unité. Et puis Jude termine ayant péri par la révolte de Corée. Alors, quelle était la révolte de Corée? Corée a mené une rébellion, révolte, contre Moïse et a dit, nous aussi nous sommes saints, et tous les gens sont saints, et pourquoi prends-tu sur toi de régner sur nous? Il y a beaucoup de place pour que plus d'un puisse régner. Nous aussi nous sommes saints. Vous voyez? C'était la révolte de Corée. Il y avait quelque chose à gagner de ce qu'il disait. Il n'aimait voulait pas d'un message d'un seul homme, d'un ministère d'un seul homme. Ils se sont donc rebellés en utilisant la multitude des gens pour se tenir à leur côté contre le mouvement de Dieu. Et ils font la même chose aujourd'hui, en disant nous sommes le quintuple ministère, nous avons aussi quelque chose à dire. Dieu Néhémie parle pas à travers un seul homme. Et là, ils se sont séparés du véritable quintuple ministère qui Néhémie dira que ce que le prophète confirmait leur a dit de dire. Remarquez comment Jude continue de décrire ses faux ministres au temps de la fin. 12 Ce sont des écueils dans vos agapes. Quand ils se régalent avec vous, se repaissant eux-mêmes. Remarquez qu'il dit faisant impudemment bonne chère, avec vous, ainsi, ce sont ceux qui entrent directement dans ce message et commencent à manger avec nous de la nourriture spirituelle au temps convenable qui a été préparée pour nous. Mais le message Néhémie leur estère pas parvenu, ils sont venus là où se trouvait le message. Et puis remarquez que Jude décrit davantage ces hommes en disant, ce sont des nuées sans eau. Maintenant, une nuée sans eau estère un nuage sans pluie. Et Paul appelle les témoins de ce qui s'estère passer des nuées. Il les appelle des nuées de témoins. Ainsi, les nuées représentent des gens qui ont été témoins de ce ministère du temps de la fin, mais ils sont sans eau, ce qui signifie qu'ils sont ceux qui sont témoins sans la doctrine qui a été prêchée. Ils doivent donc être témoins du vase, et non de ce que le vase a enseigné. Cela fait d'eux de faux témoins, car ils ne témoignent pas la parole à Dieu, mais du vase que Dieu a choisi d'utiliser. Et Dieu a dit, Ésaïe 42.8 Je suis l'Éternel, c'est-à-dire là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. L'apôtre Paul a parlé dans Hébreux 12.1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe, assaille si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Pourtant, Gilles parle de ces nuées comme étant sans eau. Ce sont des nuées sans eau. Ce sont donc des nuages sans pluie. Maintenant, pourquoi est-ce ceci important? Parce que Dieu a dit dans Deutéronome 32.1-2 cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, et toi, terre, écoute les paroles de ma bouche. De ma doctrine distillera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme une pluie fine sur l'herbe tendre, et comme des ondées sur l'herbe mûre. Ainsi, Gilles décrit beaucoup des soi-disant témoins que nous avons eus parmi nous, qui sont venus parmi les croyants du message et ont pris la relève, mais l'ont repris sans doctrine. Ils sont venus en disant, j'ai chassé avec William Branham, ou j'ai péché avec William Branham, mais ces hommes Néhémie sont connus que comme des hommes qui étaient des amis du prophète, mais ces hommes sont dénués, ou des témoins sans doctrine. Et c'est très important pour vous d'être conscient de qui ils sont, sinon vous finirez par être séduit comme tant d'autres. Gilles poursuit, poussé par les vents. Et le mauvais Esther, un autre symbole utilisé pour représenter les doctrines de l'homme. Le symbole de Dieu pour ces doctrines Esther la pluie, comme nous l'avons vu dans Deutéronome 32.1-2. Mais son symbole pour les doctrines trompeuses des hommes Esther, vent. Éphésiens 4.14 afin que nous n'ayons soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, par laquelle ils guettent dans le but de tromper. Gilles continue à décrire ces hommes qui n'ont pas été ordonnés à entrer et à faire partie du message, mais des hommes qui sont plutôt venus avec d'autres motifs, des arbres d'automne dont les fruits se fanent, sans fruits, deux fois morts, déracinés par les racines. Maintenant, nous vous avons montré auparavant que les arbres représentent des hommes, et donc si Esther est un homme juste, alors il est planté près de l'eau qui représente la vie. Mais si Esther est un homme insensé, il est représenté comme un arbre dont les fruits se fanent. Comparez les deux types dans Psaume 1.1 heureux l'homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Deux mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Trois il est comme un arbre planté près des courants ou fleuves d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Maintenant, comparez cet arbre de l'homme juste avec le méchant. 4. Ils n'en estèrent pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent, doctrine de l'homme, dissipe. 5. S'estèrent pourquoi les méchants Néhémie résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, le Seigneur connaît, Yada veille sur la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine, au bad. Ils sont livrés à eux-mêmes. Gilles continue à décrire ces intrus qui sont venus dans le message. Il les décrit comme 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Remarquez l'image qu'il peint dans notre esprit. C'est Esther le vent qui fait que les vagues se déplacent sur les eaux qui sont des gens, des nations, des multitudes et des peuples. Et ces hommes sont comparés à des vagues déchaînées, qui rejettent l'écume de leurs impuretés, honte. Ce qui signifie qu'ils sont agités par la doctrine des hommes, pour se déplacer sur les masses de l'humanité exposant la pourriture de leur honte. Rejetant l'écume de leurs impuretés, nous pensons à un homme fou qui salive de la bouche comme un chien enragé. C'est l'image métaphorique que Gilles peint à nos esprits ici. Mais remarquez que c'est leur doctrine des hommes qui les fait se déplacer sur les eaux qui sont des gens, des nations, des multitudes et des langues. Et avec leurs actions sur les eaux, une nouvelle fois les gens, cela soulève toute la pourriture qui est en eux. Ils ne peuvent pas plus en empêcher que l'eau entraînée par le vent. Sester les faits de la doctrine des hommes. Et le Jude les appelle des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres reste réservée pour l'éternité. Et frère Branham a dit que les astres, étoiles, errants sont des gens qui manquent de foi et donc ils se posent toujours des questions à propos de ceci et à propos de cela. Ils sont simplement instables comme le dit Jacques, Sester, un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La plus grande bataille jamais livrée 11 mars 62 p. 40 comme le dit la Bible. Des astres errants, dans le livre de Jude, rejetant l'écume de leurs impuretés, honte. Et nous n'aimons voulons pas être des astres errants, à se demander si Sester juste, à se demander si Sester vrai, à se demander si cela va arriver, à se demander si, comment il se pourrait. N'aimez vous demandez pas, restez comme ces astres du ciel comme un vrai soldat à son poste de devoir, croyant. Tenez-vous là, à la vie et la mort. Donc, si ce sont des nuées, qui sont des témoins, Néhémie pensez-vous pas qu'il n'est pas étrange, qu'il y a autant de témoins du ministère de William Branham qui n'ont aucune idée de la doctrine qu'il a enseignée? Nous sommes avertis ici dans les Écritures et non de Pierre de la même chose, ainsi que par l'apôtre Paul. Et remarquez ici que Jude a dit des nuées, pas une nuée. Maintenant, cela nous amène au fait qu'il y a deux doctrines qui sont prédominantes en cette heure. La doctrine de Christ pour laquelle si vous n'avez pas cette doctrine, vous n'avez même pas Dieu. Comme nous le voyons dans 2 Jean 9 quiconque transgresse, et Néhémie demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Néhémie fait pas écho à Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine du Christ, il a fait écho à la fois au Père et au Fils. Et puis il y a la doctrine de Balaam qui Esther aussi appelée l'erreur du Balaam. C'est Esther donc une mauvaise doctrine. Et nous sommes avertis que cela viendra parmi nous. Et remarquez que nous sommes avertis que les hommes courant après la doctrine de Balaam à cause de leur cupidité. Maintenant, la doctrine de Balaam n'est-elle pas qu'il est allé chercher l'argent, mais la doctrine de Balaam est-elle qu'il a essayé d'unir le peuple de Dieu avec ces gens qui n'aimaient son pas de Dieu. Et pour ce faire, ils doivent abandonner la bonne voie, qui est-elle la voie de Dieu. De Pierre 2.15 après avoir quitté le droit chemin ou abandonné, ceux qui se sont éloignés de la foi, ils se sont égarés. Encore une fois nous voyons que ce mot signifie s'éloigner de, s'écarter de ou errer, en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aime le salaire de l'iniquité, l'injustice. Remarquez qu'il n'aimait pas simplement le salaire, mais il aimait le salaire de l'injustice. En d'autres termes, une mauvaise compréhension paie. En d'autres termes, il y a plus d'argent dans la prédication de l'erreur que dans celle de la vérité. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Galates 4.27. Maintenant, la doctrine de Balaam est expliquée plus en détail dans le livre des Révélations. Apocalypse 2.14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Sester que tu as là, où? Directement dans le message. Sester là, dans l'église du Dieu vivant au temps de la fin, il y a ceux qui s'attachent à la doctrine de Balaam à cause de leur cupidité. Des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak et à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Maintenant, comment est-il possible que la doctrine de Balaam puisse entrer directement parmi les croyants du message? De la même manière qu'il est entré dans le mouvement pentecôtiste. Dans le sermon de frère Branham intitulé, qui dites-vous que Sester? 27 décembre 64 p. 80 voyez. Sester ce qu'il a fait aux pentecôtistes. Il disait il y a quelques années, quand vous avez tous démarré, vous n'irez nulle part. Vous n'aviez rien. Vous vous épuiseriez. Vous n'êtes qu'un tas de fanatiques. Mais chaque fois qu'ils ont essayé de vous maudire, vous reveniez de plus belle. Dieu a continué à révéler son message. Depuis l'ancienne assemblée, au commencement, le concile général. Puis l'Esther intervenue lorsqu'ils ont reçu le nom de Jésus-Christ pour le baptême d'eau. Puis l'un a sauté de cette façon, et l'autre d'une autre, et l'autre Esther partie organiser ceci et cela. Dieu a continué de bénir. Maintenant, lorsqu'il a vu qu'une Néhémie pouvait pas vous maudire, vous voyez? Alors qu'Esther ce qu'il va faire? Il va vous organiser. Vous amener à dire, oh, nous sommes tous un de toute façon. Vous voyez? Nous croyons tous au même Dieu. C'est exactement ce que Balaam a fait. Et Néhémie nous a-t-il pas prévenu de cela? Ils se sont jetés dans la doctrine de Balaam et ont péri dans la révolte de Corée. Jude, le frère adoptif de Jésus, Néhémie nous avertit-il, pas de cela dans la Bible? Ils sont comme Caïn, dès le commencement, un mercenaire, celui qui est allé à l'église et a construit des églises et a construit un autel et a offert des sacrifices. Ils se sont jetés dans la voie de Caïn. Ils se jetèrent sur la voie de Balaam et périrent dans la révolte Corée. Jude expose le tout, comme nous le faisons ce matin ici devant vous. Comme nous le faisons. Tout cela est rétabli ici. 81 Ils périrent dans la révolte de Corée. Pensez-y. À quel point c'était mal acquis. Juste de penser à ce que Corée. Voyez. Il a dit, maintenant. Nous allons tous aller à un même festin. Nous sommes tous un. Les Moabites croyaient en Dieu. C'étaient les enfants des filles de Lot. Voyez. Nous croyons tous en un seul Dieu. Fondamentalement. Ils avaient parfaitement raison. Regardez Balaam là-haut. Tout aussi fondamental que n'importe quel bon baptiste ou presbytérien d'aujourd'hui. Il est remonté là et il y avait Israël, qui n'était pas une dénomination. C'était une nation. Israël n'était pas une nation. C'était un peuple à cette époque. Ils n'aimaient voulurent pas suivre la voie de Dieu après un certain temps. Ils voulurent être comme les autres nations. C'est à ce moment-là qu'ils ont échoué. Mais tant qu'ils voulaient rester avec Dieu, ça allait très bien. 82 Balaam est sorti. Il a baissé les yeux. A dit, eh bien, oh là là. Je sais que l'un d'eux, deux ministres, a épousé la femme d'un autre homme. Toutes ces autres choses, oh bien sûr, ils en avaient beaucoup. Il a oublié d'entendre le cri du roi dans le camp. Il n'a jamais vu ce rocher frappé, et ce serpent de laiton suspendu là pour une expiation. Il n'aimait se rendait pas compte qu'il n'était lié à aucune organisation. Ils étaient attachés à l'alliance de Dieu et marchaient dans cette alliance. Voyez? Et Balaam dit, fondamentalement, construis-moi cet autel. C'est-à-dire ce que Jéhovah exigeait. C'est-à-dire ce que Jéhovah a obtenu des deux côtés. D'accord? Mettez cette veau dessus. C'est-à-dire ce qu'il faisait là-bas dans ce camp. Mettez-moi cette bélier dessus parce qu'il y aura un Messie un jour. D'accord. 83 Voyez? Fondamentalement, ils avaient tous les deux raison. Fondamentalement. Voyez? Mais un jour, quand il a vu qu'une Néhémie pouvait pas l'avoir sur ce point, il a dit, et si nous nous organisons ensemble? Alors. Et c'est là qu'ils ont fait leur erreur. Et c'est exactement là que la Pentecôte a fait son erreur, quand elle s'est organisée, comme le reste des églises. Je Néhémie suis pas votre ennemi. Je suis ton frère. Un de ces jours, vous allez découvrir que c'est la vérité. Cela peut prendre encore un peu de temps, quelques rotations du soleil. Mais un jour, vous verrez que c'est vrai. Puis la doctrine de Balaam les a frappés juste. C'est ce qu'ils voulaient. Nous sommes tous un. Voyez? Alors voilà. Tous leurs prophètes et tout se sont bien joints avec eux. Et ils étaient à la fête. Les mêmes ont dit, et nous croyons tous qu'il y a un seul Dieu. Croyons-le. C'était exactement ce qu'ils cherchaient. Exactement. En 1983, il y a 39 ans, Frère Vell m'a averti que de faux enseignants, docteurs, étaient venus dans ce message pour éloigner les gens de la foi. Il m'a dit de lire 2 Pierre 2. Alors je l'ai fait. 2 Pierre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Maître, le Seigneur, qui les a rachetés, c'est-à-dire le Dieu qui est ici, le Fils de Dieu était le prix d'achat, mais ils n'y disent non à celui qui est descendu avec un cri. Ils disent non au Dieu qui les a achetés, qualifiant sa parousia, sa présence de fausse doctrine. Attirons sur eux une ruine soudaine. De plusieurs, pas quelques-uns, mais plusieurs, les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. En d'autres termes, par ce qu'ils font et enseignent, ils jetteront le discrédit sur la vérité vraie, qui est le message de sa présence, ou ils lui donneront une mauvaise réputation. 3. Par cupidité, nous savons tout ce que c'est l'avidité qui, selon Jude, était le motif derrière la doctrine du Balaam. Donc, pour de l'argent, au moyen de paroles trompeuses, ce sont des paroles qu'ils inventent, qui n'y sont rien d'autre que des mensonges. Et donc avec leurs mensonges, ils trafiqueront de vous. Et qu'est-ce que cela signifie? Vous n'êtes que de la marchandise pour la vendre et en tirer profit. Ils n'y se soucient pas de l'âme, des hommes. Ils se soucient juste de la façon dont ils peuvent faire des âmes des hommes des marchandises. C'est ce qu'il estère, dit qu'ils font dans Apocalypse 18.13. Ils font des âmes des hommes des marchandises, avec toutes leurs autres transactions. Eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine n'est mis sommeil point. Remarquez maintenant le verset 12. Mais eux, semblables à des brutes, en d'autres termes, ils n'est mis sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas Dieu. Il s'agit, comme Paul le dit, dans 1 Corinthiens 2, de l'homme animal qui n'est mis peut pas comprendre les choses de Dieu. Par conséquent, non seulement ils n'ont pas la doctrine de Christ, mais il leur est impossible de la comprendre. Et, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et, qui sont nés pour être pris et détruites. Et ces hommes, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils n'est mis comprennent pas, et ils périront par leur propre corruption. Maintenant, rappelez-vous, à la fin des temps, il y aura un grand afflux de ces hommes méchants, que Paul appelle des séducteurs. Et il dit, ils vont devenir de pire en pire comme Paul nous en avertit dans 2 Timothée 3.13. Mais des hommes mauvais, des hommes ponoraux. Maintenant, si le diable lui-même est appelé ponoraux, alors ce sont ses enfants ou sa progéniture. Mais les méchants et les séducteurs, et la séduction n'est-elle pas la méthode que le serpent a utilisée sur Ève? Maintenant, la séduction n'est-elle pas un viol? Ce n'est-elle pas une chose forcée? C'est-elle une façon très habilement déguisée d'obtenir ce qu'ils veulent? Et cela s'appelle la séduction. Et ces hommes méchants et imposteurs, séducteurs, avanceront toujours plus dans le mal acquis, égarant, séduisant les autres et égarent eux-mêmes, étant eux-mêmes séduits. Ou étant capables de séduire parce qu'eux-mêmes ont aussi été séduits. C'est pourquoi ils ont l'air très sincères dans ce qu'ils croient. Et ils sont très bons à convaincre les autres de se rassembler. Et plus le groupe est grand, mieux c'est. Car ils croient que la sécurité est dans le nombre. Mais nous pouvons être reconnaissants, parce qu'en tant que postérité de Dieu, Nous avons reçu la capacité de comprendre selon Jean 1.12 et 1 Corinthiens 2.1-10. C'est-à-dire pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans Hébreux 5.14, « Mais la nourriture solide, la viande, est-elle pour les hommes faits ?» Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal acquis. Et nous voyons la même chose dans Malachie 3:16-18. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent souvent, et l'Éternel les écouta, et les entendit. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignirent l'Éternel, et qui pensèrent à son nom. 17 Et ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, en ce jour où je confectionnerai mes bijoux, en ce jour où je viendrai rassembler mon peuple traduction Lamsa, et je les épargnerai, comme un homme épargne son propre fils qui le sert. Nous examinons donc ici une relation entre le Père et les fils. Et parce que nous sommes des fils, nous connaîtrons comme nous sommes connus, et nous connaîtrons la différence entre la justice, juste sagesse, et ce qui est l'erreur. 18 Alors vous reviendrez où? À l'endroit où vous avez commencé. Le point de départ. Et où était-ce? Quand nous étions au Christ avant les fondations du monde. En d'autres termes, nous reviendrons à la parole originelle. Et vous, Néhémie, pouvez pas revenir à moins d'avoir été là pour commencer. Et quand nous serons revenus à la parole originelle et nous verrons à nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui Néhémie sert pas Dieu. Et c'est là où nous en sommes ce matin. Éphésiens 4.14 Afin que nous Néhémie soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, et rappelez-vous simplement que ce n'est pas de votre fait, mais c'est son action à lui qui compte. Car l'apôtre Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 3.3 Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Le Seigneur vous gardera de tous les ponereaux, il vous empêchera d'être influencé par le méchant et ses desseins. Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Inclinons nos cœurs et nos têtes dans la prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, avril 2023. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.